Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie pour ce nouvel éclairage qui nous donne le plaisir et le grand privilège d'accueillir le président Bernard Ezenbert pour regarder de plus près les conséquences de la crise financière, en particulier sur le tissu industriel français. Monsieur le Président, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien, d'autant que vos interventions sont peu nombreuses et donc très attendues. Vous confiez d'ailleurs volontiers que l'art contemporain et la médecine suffiraient à remplir votre emploi du temps. Alors, un emploi du temps qui, bien sûr, est particulièrement riche en liaison avec votre parcours exceptionnel sur lequel je reviendrai. Mais vous auriez pu opter alors pour la médecine ou les arts
Bah écoutez, non, je continue à cultiver ces deux tropismes. L'art, parce que je suis un incorrigible collectionneur de tableaux contemporains. Je suis d'ailleurs très souvent le premier acheteur de jeunes peintres débutants, ce qui fait d'eux parfois des amis. Et voilà, j'en ai beaucoup, je n'ai pas fait le compte, mais j'en ai plus d'une centaine, voire des centaines peut-être. Et j'aime beaucoup les avoir sous les yeux, les afficher, les mettre sur mes murs. Je manque de place simplement.
Et vous peignez vous-même ? Non, vous peignez vous-même ? Non.
Comment ?
Non.
Ils ne sont pas, pour la plupart, ils sont très jeunes, donc ils ne sont pas encore devenus célèbres. D'ailleurs, je leur souhaite, mais ça n'est pas ce que je recherche. Je veux dire, je n'achète pas ces tableaux pour spéculer. Je les achète tout simplement sur coup de cœur. Et parce que j'aime bien, encore une fois, avoir cet environnement autour de moi quand je travaille. Je t'ai levé le regard vers un tableau, figuratif ou non figuratif, d'ailleurs. J'aime bien les deux. Et voilà, j'aime bien m'imprégner des arts plastiques. Et alors, sur la médecine, c'est vrai que j'ai aussi un tropisme très fort, peut-être le regret de ne pas avoir fait des études de médecine, que j'ai compensé en épousant un médecin, une femme médecin, et en développant un certain nombre d'activités dans le domaine des fondations et des associations sur des thèmes médicaux, et principalement d'ailleurs sur la recherche, en ce qui concerne la recherche sur le cerveau et sur les dysfonctionnements du cerveau, les pathologies du cerveau.
Donc vous n'avez pas vraiment quitté cette envie.
Non, pas du tout.
Alors, Président, si vous voulez bien, je vais revenir un petit peu sur votre parcours pour vous présenter un peu plus. Donc vous êtes ingénieur, vous êtes polytechnicien. Vous avez été conseiller du président Georges Pompidou et vous avez bien sûr exercé des responsabilités très importantes au ministère de l'Industrie et dans le secteur bancaire. Vous avez été en particulier conseiller pour les affaires industrielles à l'Élysée directement. Alors vous avez été directeur général donc de la compagnie financière Edmond de Rothschild. Vous êtes donc un banquier d'affaires, vous avez facilité un certain nombre de rapprochements. Et vous présidez, vous co-présidez des groupes tels que Bolloré, Lagardère, Argile. Et vous êtes membre de la COB et de l'AMF.
Été membre de la COB, à laquelle l'AMF a succédé.
Donc vous êtes aussi du côté des régulateurs. Alors, vous êtes aussi un grand humaniste, on l'a compris déjà dans vos propos liminaires. Vous avez présidé l'Institut Pasteur, c'est plus le cas je crois. Vous êtes plus en présidence de l'Institut ou vous l'êtes toujours ?
Je ne le suis plus parce que dans sa sagesse, Louis Pasteur avait stipulé qu'on ne pouvait pas faire plus de 3 mandats d'administrateur d'affilée.
D'accord.
Alors j'ai fait un mandat d'administrateur, un mandat de vice-président, puis un mandat de président. je n'ai plus pu rester au conseil d'administration.
Ce qui est déjà pas mal. Bon. Alors vous avez aussi présidé l'école polytechnique, vous avez sensiblement, je crois, réformé le fonctionnement.
J'ai fait de mon mieux en tout cas.
Donc, et puis, comme vous le disiez fort justement, vous êtes intervenu dans les fondations pour la recherche et sur l'épilepsie et le cerveau. Vous êtes par ailleurs un auteur prolifique. Vous avez publié Le Troisième Conflit Mondial chez Plon en 1977. Et La Guerre Économique Mondiale, ça passe vite le temps. La Guerre Économique Mondiale en 1991. Et bien sûr, vos avis et vos conseils restent très recherchés par les grands capitaines d'industrie. Et vous êtes un conseiller, bien sûr, très écouté. Vous êtes enfin le président du Club des Vigilants. C'est toujours le cas. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il s'agit d'être vigilant. Vous avez créé ce club en 1999 sur les évolutions sous-tendues par les grandes tendances économiques et sociologiques, géopolitiques, et dont, en quelque sorte, être un...
Je l'ai créé, en fait, avec un co-fondateur qui a été un peu plus fondateur même que moi, si j'ose dire, qui est Marc Ullmann, qui est un ancien journaliste bien connu de la presse écrite et de la radio.
Voilà. Et
nous développons ensemble encore aujourd'hui ce club.
Et vous publiez des rapports ou vous
associez nous allons en publier probablement, mais de façon discrète, sur des thèmes d'ailleurs très variés. Bon, la réforme de l'entreprise dans le cadre des tropismes de ce début du XXIe siècle, dans le domaine de la gouvernance, un rapport sur l'Iran, sur l'Iran, pour lequel nous avons même fait procéder à des études sociologiques sur ce qui anime l'Iranien d'aujourd'hui.
Oui, c'est une zone géopolitique sensible.
Qui est extraordinairement sensible, et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme sujet d'étude.
Tout à fait, donc c'est extrêmement intéressant, mais peut-être à ce moment-là, on aura l'occasion d'en parler ici directement à ce moment-là. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre maintenant dans le vif du sujet, et qu'on commence donc à regarder les conséquences de la crise financière sur, bien sûr, l'économie en général, et la France en particulier. Je voudrais simplement rappeler pour nos auditeurs que vous avez une vision particulièrement prédictive, puisque en 91, ça fait quand même quelques années, vous écriviez dans votre ouvrage « La guerre économique mondiale » de 192 pages chez Olivier Orban que l'économie mondiale se globalise. Nous sommes désormais dans une guerre économique mondiale dont les entreprises forment les armées et les chômeurs les victimes. Chaque être humain est devenu un citoyen du monde. Dans le monde de la compétition économique, il n'y a pas d'innocents, il y a des pauvres, ni les pauvres, ni les riches. Je crois que c'est en toile de fond le sujet qui nous occupe. Donc, première question, si vous voulez bien, s'agissant de la crise financière, je crois qu'il faut qu'on commence par là, vous dites que finalement, c'est quand même une crise comme les autres. Mais enfin, elle a quand même une ampleur et une profondeur qui n'est pas habituelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous voyez les enchaînements, comment les choses en sont arrivées là, avec votre grande expérience de l'économie?
Mais écoutez, j'ai des vues un peu en dehors du sens commun sur cette crise, parce que pour moi, ça n'est pas la plus grande crise et de loin que nous ayons connue, même après 1929. Ce n'est pas une crise non plus liée à la création de produits nouveaux, dérivés, complexes, dont on nous a rebattu les oreilles. Bref, c'est une crise, d'une certaine façon, relativement banale, à mes yeux, dans les techniques qu'elle a empruntées pour se propager. Et peut-être même aussi, on pourrait y revenir, dans sa dimension. Alors, sur les produits, bon, on sait maintenant ce qu'elle a été, cette crise. Elle est née de ces fameux crédits hypothécaires dispensés abusivement par les banques américaines à des ménages qui n'auraient pas dû normalement s'endetter pour acheter un appartement. Tout ça parce que l'argent était facile, les taux d'intérêt très bas, en vertu d'une politique de la Banque centrale américaine, probablement un peu trop laxiste dans ce domaine. Et sur ces crédits sont venus se greffer un certain nombre de problèmes parce que ils ont alourdi le ventre, le bilan des banques, le ventre du bilan des banques qui ne pouvaient donc plus, ayant procédé à ces produits, à ces crédits hypothécaires, continuer à prêter.
Prisonnières des rapports de fonds propres aux fonds d'emprunt.
Voilà, puisque leur volume de prêt était corrélé à leurs fonds propres. Et les banques, pour donc retrouver un peu d'oxygène et de nouveau prêter, ont donc titrisé ces prêts immobiliers, les ont vendus à des structures financières. Et avec un bilan donc dégagé, on pu procéder à des prêts à des particuliers, à des prêts à des PME, dont certains d'ailleurs se sont révélés aussi des sources de problèmes, parce que toujours trop de facilité en matière de liquidité, de taux d'intérêt, et donc que des prêts finis, un octroi trop facile, qui ont fini par poser également quelques mois plus tard des problèmes. Donc au total, la source de tous ces problèmes, ce sont ces prêts immobiliers consentis trop facilement, et quelques prêts personnels, quelques prêts à des PME qui ne les auraient pas mérités, le tout à la hauteur d'une enveloppe de, mettons pour simplifier, pour arrondir, 1000 milliards de dollars en ce qui concerne les prêts de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité. Alors ces prêts se sont trouvés dans ces titrisations, dans ces produits titrisés, sur la base desquels produits titrisés on a émis des certificats de dépôt qui ont commencé à être diffusés dans le public des clients de ces sociétés financières. Et puis, on a retitrisé ces certificats de dépôt et on a réémis les certificats de dépôt, cette fois-ci à long terme, les premiers étant à court terme, sur la base de cette deuxième titrisation. Donc, en fait, il y a eu, comment dire, quatre échelons de produits financiers qui ne sont absolument pas complexes. Je veux dire, des titrisations, moi, j'en ai fait quand j'étais banquier, jeune banquier, dans les années 70-80. Ça n'est absolument pas nouveau.
C'est une technique,
c'est une technique banale. Quant à l'émission de certificats de dépôt sur des produits titrisés, ça n'est pas non plus quelque chose d'excessivement complexe. Donc, il n'est pas besoin d'être normalien, polytechnicien, bac plus 18 pour élaborer ce genre de produit. Donc, il faut mettre fin à ce mythe de ces produits complexes qui auraient été à l'origine de cette crise. Pas du tout. La crise est née sur la base de produits d'une grande banalité et d'une grande simplicité. Simplement, on a multiplié par 60 au travers de cette double titrisation et cette double émission de certificats de dépôt le risque initial qui s'est trouvé dilué dans d'innombrables produits et finalement, ces produits ont irrigué la planète tout entière. On en a retrouvé dans des SICAV de trésorerie qui en général sont souscrites chez nous, par exemple en France, par des associations, des fondations, des particuliers.
Vous dites des produits simples, mais qui ensuite, étant regroupés, ont généré une certaine complexité.
Qui ont généré de l'obscurité.
C'est ça,
du manque de transparence, plus que de la complexité. C'est-à-dire qu'introduit donc dans ces SICAV de trésorerie, qu'on a appelé SICAV monétaire dynamique, hélas, puisqu'elles ont eu un certain succès sous ce label, plus personne n'était capable à l'arrivée, je veux dire, dans ces SICAV monétaires dites dynamiques ou dans bien d'autres produits qui ont utilisé ces certificats de dépôt, de retrouver la trace de la gangrène initiale de ces fameux crédits hypothécaires ou des autres formes de crédit que les banques américaines avaient monté trop facilement. Et tout ceci a créé une espèce de suspicion généralisée, de méfiance, car personne n'était capable de démonter ce mécano. Et c'est d'ailleurs encore aujourd'hui une grande surprise, parce qu'après tout, ce mécano, encore une fois, n'était pas d'une grande complexité. Comment se fait-il qu'aux États-Unis, où tout de même les grandes universités ont des professeurs d'économie d'une extraordinaire qualité, souvent nobélisés, avec des armées d'étudiants PhD capables de les aider et de décortiquer à belles dents les problèmes les plus complexes. Comment se fait-il qu'on n'ait pas réussi sur ces quatre produits multiplicateurs à partir de crédits immobiliers de mauvaise qualité, qu'on n'ait pas réussi à tracer tout cela et à rassurer, dans le fond, celui qui, au bout de la chaîne, après une multiplication par 60, en gros, de l'émission de papier initiale, on n'est pas réussi à retrouver la trace du papier de mauvaise qualité qu'il convenait donc soit de provisionner, soit de localiser dans un fonds ad hoc. Enfin,
donc il y a eu une sorte d'aveuglement, alors, à un moment donné.
Il y a eu une forme d'aveuglement, c'est vrai, qui a créé une espèce de méfiance généralisée qui, d'ailleurs, subsiste encore d'une certaine façon aujourd'hui, si les banques ne se prêtent plus tellement d'argent dans un certain nombre de pays, si ce fameux marché interbancaire par lequel les banques créditrices prêtent aux banques débitrices ne fonctionne pas, c'est bien parce que les banques ne veulent pas prêter à des banques dont elles ignorent à quel degré elles ont souscrit ce genre de produit. Alors, il y a peut-être aussi quelques croche-pieds de la part de certaines banques, mais je veux dire, pour l'essentiel, c'est la méfiance qui règne et c'est la méfiance qui a donné à cette crise cette dimension absolument fabuleuse qu'elle ne méritait pas à mes yeux au départ. Parce que si vraiment la source de tout cela, c'est 800 000 milliards de crédits de très mauvaise qualité, ces 800 000 milliards de crédits de mauvaise qualité, vous les trouvez déjà, d'ores et déjà, dans les provisions passées par tout le système bancaire et financier et qui a conduit à des pertes sur l'exercice 2007, sur le premier semestre 2008, sur le troisième trimestre 2008. Tout ça est déjà inscrit dans les comptes et donc, à la limite, je veux dire, le problème est derrière nous, d'une certaine façon. Je simplifie.
Bien sûr, non, mais c'est plus de la manœuvre.
Mais on peut envisager les choses de cette façon.
Oui, mais par contre, à côté, on donne des chiffres qui donnent le tournis d'abord. La perte de valeur boursière, c'est entre 30 000 et 40 000 milliards de dollars, c'est-à-dire en gros des chiffres voisins du PIB mondial de la planète sur un an. Et puis des produits dérivés aussi dont on parle, des chiffres du style à 40 à 50 000 milliards. Ce sont des chiffres d'ailleurs qui donnent un vertige absolu et plus personne n'y comprend.
Alors l'explication, elle réside dans le fait que cette crise, dans le fond, a révélé d'autres sources de dysfonctionnement du système financier international. Par exemple, le fait qu'une compagnie d'assurance, AIG pour ne pas la nommer, a souscrit pour des centaines de milliards de dollars des produits dérivés, alors ceux-là plus complexes, les default swaps, qui sont une façon de jouer sur d'autres structures en difficulté. Et effectivement, la politique menée par AIG est une politique folle. Je veux dire, quand on la regarde maintenant avec le recul de quelques semaines ou de quelques mois, et elle a conduit bien entendu à la déconfiture de cette compagnie d'assurance. Et puis on s'est aperçu qu'en Europe, certaines banques avaient peut-être été aussi un peu légères dans certaines formes de crédit à des collectivités locales, s'agissant de Dexia, outre le fait que Dexia avait ce qu'on appelle un rehausseur de crédit, enfin, qui a rehaussé plus qu'il n'aurait dû, et très au-delà de ses fonds propres.
Donc c'est un effet de chaîne, en quelque sorte.
Bref, il y a eu cet effet de révélation de légèreté de la part de banques, mais de légèreté qui, en des temps ordinaires, n'aurait pas conduit à une crise systémique, je veux dire, qui aurait conduit à de mauvais résultats de la structure en question, de la banque en question, qu'il s'agisse de Dexia ou d'autres, ou de Fortis, ou des banques britanniques nationalisées. Et puis voilà, on n'en aurait plus parlé. Je veux dire, les résultats auraient été mauvais, le cours de la structure aurait chuté, et puis les choses se seraient rétablies en fonction de la gestion, de la bonne gestion à venir de ces structures, par de nouvelles équipes, ou par d'anciennes instruites par l'expérience. Bref, il y a eu deux choses. Il y a eu la déflagration initiale et une série d'autres déflagrations initiées par la première, mais même ces secondes déflagrations, quand on les additionne aux premières, à mon avis, ne donnent pas à cette crise la dimension d'une crise absolument exceptionnelle. Alors, il faut peut-être dépasser en vue d'ailleurs ces crises, parce que depuis 1929, il y en a eu un certain nombre. Il y en a deux que j'ai vécues, moi, alors Escalité à l'Élysée, en tant que conseiller économique de Georges Pompidou. Enfin, la première surtout, ce sont les crises pétrolières.
C'est ça, donc énergie, etc.
Celle de 1973 et celle de 1981, qui ont été meurtrières. On a un peu oublié qu'en 1974, le monde a été dans le rouge en termes de croissance partout dans sa partie développée. Les États-Unis ont vu leur PNB perdre 2%. Donc la croissance du PNB a été négative de 2%. En 1974, on l'a oublié, et les États-Unis ont récidivé en 82. La perte a été de 1,8 ou 1,7%, je ne sais pas. Et en Europe, nous avons eu des chutes un peu moins affirmées, mais des chutes également. Là, on a peur, à juste titre, parce que l'incidence sur le chômage, sur le niveau de vie et sur bien d'autres éléments qui conditionnent notre façon de vivre, on a peur d'une réduction à 0+ ou à 0,5% en 2009 du produit national brut de la France. Encore une fois, on a perdu 2% en 1974. On l'a un peu oublié et nous n'en sommes pas morts.
Mais tout à fait. C'est ce qui vous permet de dire que c'est en fait une crise comme les autres. Des grandes crises qui arrivent tous les 10 ans.
Si on regarde les autres après, ces deux-là qui ont été quand même des crises d'une certaine ampleur, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la première fois que le monde repassait dans le rouge en termes de croissance depuis très très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale et même depuis les années 30. Il y a eu ensuite 4 ou 5 crises. La crise de l'immobilier en 1990, la crise des pays nordiques peu de temps après, la crise de l'Asie du Sud-Est vers 97-98. Auparavant, il y avait eu la crise du Japon. En 2000, il y a eu l'égonflement de la bulle des fameuses TIC, des structures de l'informatique, de l'information, qui a été aussi une déflagration considérée à l'époque comme absolument essentielle, comme la première depuis 29. On est toujours dans l'esprit de donner à ce qu'on est en train de vivre la dimension de la crise de 29. Pourquoi ? Parce que quand on est pris dans le courant, on n'a pas le recul nécessaire pour mettre les choses en perspective. Bon, je crois que maintenant, on peut commencer à le faire. Alors, je me trompe peut-être, j'espère que non. En tout cas, c'est aussi une façon pour moi de donner un diagnostic positif, optimiste à cette crise et donc de penser que ses effets seront moins graves que tous ceux qu'on appréhende aujourd'hui. Et ça, c'est le plus important peut-être.
Tout à fait. Le diagnostic donc est fait. L'ordonnance a été donnée à travers les différents plans. Alors, je vous poserai la question, mais nous allons marquer une courte pause, de savoir si on va pouvoir sauver tous les malades. À tout à l'heure.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Je suis avec le président Bernard Ezembert. Et nous sommes en train de réfléchir sur les conséquences de la crise financière sur la France et en particulier sur son tissu industriel. Alors, je venais de vous poser la question de savoir si nous allons pouvoir sauver, à travers les plans qui ont été mis en place, tous les malades.
Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'on va vivre quelques mois difficiles, mais que dans un an et demi au grand maximum, la sérénité sera revenue. Les fondamentaux de la plupart des grandes entreprises, d'ailleurs certaines ne sont absolument pas touchées dès maintenant, je veux dire. Les fondamentaux montreront que de ces entreprises que le pire n'est pas sûr. Là encore, une petite mise en perspective tout de même. Donc dans les années 70, dans le fond, on était dans l'économie du concret, de l'industrie. L'industrie pesait plus de 50% du produit national brut. On était déjà dans le monde, dans la mondialisation. Les multinationales s'implantaient à l'étranger, largement, par des usines. Et il y avait un début de financiarisation, c'est-à-dire qu'au-delà de ces transferts de capitaux, il y avait des produits financiers bâtis sur ces transferts d'usines, qui les multipliaient par 10, 20 ou 30. Bon, aujourd'hui, on en est à des coefficients multiplicateurs qui sont de 60 ou 100. Et le poids du secteur financier dans l'économie des pays développés est passé de 2-3% à l'époque à 8-10% aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment ça.
Tout à fait, oui. En Angleterre, c'est 25%.
Et c'est même 25% en Angleterre. C'est 20%. Enfin, ouais, 25% ouais, en Angleterre, ça, tout ouais. à fait. Dans le fond, c'est 20-25% en Angleterre, 10% chez nous et entre les deux aux États-Unis, qui ont introduit cette espèce de poursuite effrénée de taux de rentabilité de 15% par an, qui sont tenables un temps, mais qui ne sont pas tenables sur le très long terme. Hein. Je veux dire, parce qu'on sait bien que les taux de productivité sont maintenant de l'ordre de 2 à 3% par an. Ils étaient de 4 ou 5% il y a 30 ans. Et tout ceci ne peut déboucher sur des taux de rentabilité très supérieurs à 4, 5, 6%. Et certainement pas sur du 15% sur le très long terme. Donc on ne retrouvera pas les 15%, ça va de soi. Oui,
de
la financiarisation va être régulée, je pense, de façon sérieuse. Qu'est-ce qu'on retrouvera pour autant du 2-3% sur l'économie réelle, c'est-à-dire sur l'industrie et les services qui lui sont en général d'ailleurs étroitement corrélés, hein, sous forme d'externalisation de toute nature ou de corrélation très forte. Moi, je crois que oui, je veux dire, je ne vois pas de raison pour que
mais les armes
l'appétit des consommateurs ne soit plus là et donc que l'investissement des entreprises ne renaisse pas dans un délai d'un an et demi au maximum. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas d'appétit. La consommation est bien sûr un peu en rade.
L'investissement.
Encore que dans certains secteurs, elle ne soit pas tombée fortement. L'investissement, en revanche, lui, a du plomb dans l'aile, sérieusement. Et c'est ce qui m'ennuie le plus, parce qu'une économie en croissance régulière non négligeable est une économie qui sait manier aussi bien le levier de la consommation que le levier de l'investissement. Il faut les deux. Quand vous n'utilisez que le levier de la consommation, eh bien, vous êtes amené à importer parce que l'outil ne suit plus. Vous n'avez plus de la capacité de production nécessaire pour faire face à la consommation. Et quand vous investissez trop par rapport à la consommation, vous avez d'autres soucis. Il faut que les deux leviers soient manœuvrés simultanément et habilement. Et je pense qu'ils le seront dans les mois qui viennent. Et donc, c'est un premier élément. Je pense que la confiance renaîtra. Beaucoup d'entreprises industrielles, dès maintenant, ont des prévisions de résultats en croissance, curieusement, de plus de 10% pour certaines d'entre elles. Elles sont peu nombreuses, j'en conviens, mais tout de même. Et puis, il y a des secteurs qui vont faire l'objet d'une forte demande, sans que d'ailleurs il y ait forcément une très forte innovation. Bon, les services à la personne vont continuer à se développer de façon massive. La pharmacie également, parce qu'on est dans un système absolument irréversible, et je crois qu'on a du mal à s'en rendre compte, nous Français en particulier, compte tenu de nos problèmes de déficit de la sécurité sociale, on est dans un système d'appétit boulimique en matière de santé qui va faire qu'on va passer de 10-11% du PNB en termes de dépenses de santé, inéluctablement à 15%. D'accord. Donc le problème, c'est pas de freiner, c'est de savoir comment faire face à cette demande, pour qu'elle soit financée de façon orthodoxe. Oui. Voilà le vrai problème. En tout cas, ça va se traduire dans l'immédiat par le fait que les firmes pharmaceutiques vont continuer à se développer. Et la meilleure preuve en est d'ailleurs que ce sont celles qui ont le moins chuté en bourse et qui sont les plus soutenues encore
tout à
aujourd'hui.
Fait, oui. Le marché a raison.
le marché a effectivement raison. Donc vous aurez la pharmacie, les services à la personne. Même certains biens de consommation, très bas de gamme, c'est le milieu de gamme qui va souffrir, mais tous les produits démarqués à bas coût vont effectivement se développer, ainsi que le luxe qui va se maintenir, comme il se maintient toujours dans les périodes de crise, pour des raisons qui sont d'ailleurs pas totalement paradoxales.
Donc tout ce que
tout
vous
ce qui est télécommunications, informatique, Internet, va se poursuivre. Pourquoi ? Pour une raison d'ailleurs toute simple, c'est que tout ça pèse très peu dans le budget du foyer français. Quand vous additionnez toutes les dépenses de télécommunications, d'Internet, d'informatique, ça représente moins de 2% du budget des Français, 1,5%. Donc je veux dire, il n'y a pas de raison qu'il y ait freinage dans ce domaine. Donc vous voyez que vous pouvez, secteur par secteur, imaginer que des entreprises vont tirer leur épingle du jeu. Et puis dans les secteurs moins porteurs, bah, vous aurez toujours des entreprises mieux gérées que d'autres qui également reprendront du poil de la bête, dont les patrons ne se décourageront pas, qui iront à l'assaut de leur marché, de nouveaux marchés, parce qu'il faudra faire preuve d'audace, pratiquer un effort important de recherche-développement. Et faire preuve d'audace à long terme, ça va être la grande innovation. C'est-à-dire que les entreprises ne vont plus avoir le nez sur le guidon. Je l'espère, en tout cas, elles vont faire preuve de vision à long terme plutôt que de court-termisme. Et alors, curieusement et paradoxalement, c'est aussi une vision qui nous vient des États-Unis, où certaines entreprises et certains analystes financiers sont en train de basculer du court terme au long terme, avec c'est la rapidité qui caractérise la vie économique aux États-Unis.
Oui. Donc ce que vous dites en filigrane, c'est que les États-Unis, il ne faut pas les condamner encore trop vite, parce qu'ils ont des capacités de rebond
qui extraordinaire. Sont... extraordinaire. La sortie de la, ils seront les premiers à sortir de la crise, à mes yeux.
Tout à fait.
Bien avant nous.
Alors ce que vous disiez là, donc, dans ce scénario que vous étiez en train d'évoquer, en disant qu'en fait, le pire est loin d'être sûr. Donc, toucher bien entendu la situation française. Et on voit que dans les schémas et dans les secteurs d'activité que vous indiquiez, la France a des atouts. Alors, vous n'avez pas cité l'agroalimentaire. Il y a deux secteurs. Il y a l'agroalimentaire que vous n'aviez pas cité, et puis il y a d'autre côté l'automobile.
Il y a l'agroalimentaire, effectivement, pour la partie, encore une fois, produit de bas de gamme plutôt que de milieu de gamme. Il va y avoir une polarisation, si j'ose dire, des ventes, des produits vers le haut et vers le bas, au détriment du milieu de la gamme des produits dans beaucoup de domaines. Et je pense que c'est vrai pour l'automobile, pour essayer de répondre à votre voiture, parce que c'est vrai que l'automobile pose un vrai problème. Moi, je pense que la solution pour les constructeurs, c'est le bas de gamme et c'est le haut de gamme. Et que le milieu de gamme sera probablement, comme dans les autres domaines, le secteur qui va le plus souffrir. Et puis, il va y avoir quand même l'arrivée des voitures hybrides, électriques et classiques.
Et là, dans ce domaine, on est peut-être structurellement défavorisé, puisqu'on a beaucoup investi.
On a Peugeot, après avoir longuement hésité, y est venu, je veux dire, à travailler activement sur le sujet. Renault également. Dans le domaine des accumulateurs, il y a un groupe tout à fait singulier qui est le groupe Bolloré, qui a su tirer parti de son savoir-faire technique
qui est très investi en
matière de métallisation de bobines, de films de plastique fin, pour créer une technique d'accumulateur tout à fait étonnante qui peut se loger dans le plancher des voitures. Donc on a des atouts dans ce domaine.
Donc ce que vous nous dites, c'est qu'une crise gigantesque, elle n'est absolument pas certaine. Elle ressemble à beaucoup d'éléments aux autres crises. Que finalement, il y aura une reprise. Les États-Unis sont loin d'être condamnés. Et la France conserve, même si elle est sur une ligne de départ un petit peu alourdie par le fardeau peut-être de son système social, de protection sociale par exemple, enfin en tout cas le niveau de sa dette publique. Vous dites qu'on a des atouts et qu'il faut revenir à plus de sagesse.
Et on en a dans un secteur qu'on n'a pas évoqué, qui est celui des PME, des petites et moyennes entreprises, qui sont quand même le corps vivant essentiel de l'économie. Eh bien, vous avez beaucoup de patrons. Vous avez des patrons de PME qui, bien entendu, en ce moment, sont dans la difficulté. Vous avez un accroissement du taux des règlements judiciaires, c'est clair. Mais vous avez aussi beaucoup de patrons de PME qui sont déjà en train de réagir, de contre-attaquer et de prévoir un plan de développement de leur affaire tout à fait spectaculaire. Et ceux-là, en plus, je pense, trouveront leur financement. Je veux dire,
oui, les banquiers vont reprendre le...
Bah oui, parce que ne serait-ce que par la proximité, je veux dire, géographiquement, comment voulez-vous que l'agence régionale d'une grande banque, qui a des liens étroits avec une PME locale dont elle connaît la solidité, la bonne gestion, ne continue pas à lui octroyer des crédits. Moi, je fais confiance à la proximité qui existe au niveau régional entre le système bancaire et le système des PME.
En tout cas, le gouvernement est bien décidé à les aider.
Avec en plus,
avec la nomination de René Ricol comme médiateur du crédit, je pense qu'ils sont... Et je crois qu'effectivement, il faut relancer la machine. Et à partir du moment où elle sera relancée, on reviendra...
Je connais bien René Ricol. Je pense qu'il sera d'une grande efficacité dans ce rôle.
Certains disent que c'est médiator. Mais enfin, à titre amical. Bon. Et donc, dernière question. On voit bien sûr que l'État a fait un retour quand même assez fort dans la direction de l'économie. Alors, vous aviez dit à une époque qu'il n'y a pas plus mauvais actionnaire que l'État. C'est une fatalité, à l'exception de Renault. Alors, vous en dites quoi, là ?
Oui, non, je crois que ça, à mes yeux, ça reste toujours vrai. Cela dit, ça n'enlève rien au rôle macroéconomique de régulateur suprême que doit jouer l'État, qui, là, est un rôle essentiel. Je ne connais pas de crise parmi toutes celles qu'on a citées tout à l'heure qui ne se soit pas résolue par l'intervention massive des États. Hein, en 29... C'est le président américain a sué sang et eau pendant des années avec le New Deal pour mettre fin à la crise. Mais c'est vrai de toutes les crises. Je veux dire, toutes ces crises ne se sont pas résolues par la bonne volonté une espèce de miracle qui a fait que les marchés ont remis en ordre l'économie. C'est pas vrai. Les marchés ne fonctionnent plus. Et quand les marchés ne fonctionnent plus, il faut que les États prennent le relais. Donc, les États jouent ce rôle macroéconomique, c'est évident. Et je crois qu'ils l'ont joué. Hein, je veux dire, la France en tête d'ailleurs. Avec un président de la République qui a fait preuve d'un dynamisme...
Réactivité exceptionnelle.
À toute épreuve. Ouais. Mais c'est naturel, je veux dire. En revanche, que l'État intervienne directement dans la vie des entreprises, dans la vie des affaires, là, effectivement, je crois qu'il faut être prudent. Il le fera peut-être, mais dans des cas extrêmes. Ouais. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, l'État est pataud. Ouais. L'État est pataud et ne sait pas gérer. Ce n'est pas son rôle, je veux dire. Ça n'est pas sa fonction et ça n'est pas la fonction des jeunes fonctionnaires qui ont, en général, encore du lait dans le nez, de diriger
une vision un peu externe. Tout à fait. Autre question, donc, parce que le temps passe vite, trop vite avec vous. Quelles leçons vous tirez de cette crise complémentaire et notamment dans un domaine où vous êtes expert, c'est-à-dire sur la direction des entreprises? Ce qu'on voit naître, on va dire, à la lumière du tribunal de l'opinion, c'est un fantastique désir de morale.
Tout à fait. Il y a à mes yeux deux éléments essentiels. Le premier, à la limite le plus facile, c'est celui que j'évoquais brièvement tout à l'heure, du long terme, de la priorité du long terme. On doit réagir à long terme, avoir une stratégie à long terme pour d'ailleurs permettre la recherche-développement. La recherche-développement, ça ne se fait pas au jour le jour. Ça se crée, ça se façonne, ça s'investit sur le très long terme. Donc le long terme va l'emporter, au moins pour quelques temps, parce que le pendule va repartir, je l'espère, dans ce sens-là, le pendule des activités humaines. Et puis, il y a le fait que tout ceci a mis en évidence tout de même des dysfonctionnements moraux du système, que des grands patrons américains, avant que leur banque ne fasse faillite, aient reçu... L'année qui a précédé cette déconfiture, des centaines de millions de dollars de bonus, n'est pas supportable, ce n'est pas compréhensible. Personne ne peut le comprendre et ça n'est pas compréhensible. Donc il faut supprimer ces enrichissements sans cause, insolents moralement. Et il faut donc que se crée un peu d'éthique autour de la vie des entreprises. Alors comment ? Ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, moi, j'ai mon système, si j'ose dire, qui est qu'on a accumulé beaucoup de sagesse, beaucoup d'amorces de lois éthiques, dans la théologie des grandes religions monothéistes, dans la déclaration des droits de l'homme, dans ces textes magnifiques qui sont au frontispice de notre constitution, de celle des Nations Unies, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, que je pense aussi que les patrons de certaines grandes ONG ont eux-mêmes des choses à dire sur ce thème, des prix Nobel de la paix. Donc j'imagine bien une espèce de conclave de sages de ce genre qui... à partir de toute cette sagesse accumulée de l'homme relativement moderne, enfin disons au cours des quelques derniers millénaires.
L'honnête homme.
L'honnête homme de ces quelques derniers millénaires, si j'ose dire. Que j'imagine une réunion qui permettrait de dégager une synthèse. Et puis surtout, qui à partir du moment où cette réunion regrouperait des représentants de toutes les grandes tendances universalistes du monde, des 6 milliards d'individus, ferait que le texte, que la règle morale qui en sortirait serait respectée et mise en application. Si vous créez un code moral en Occident, par exemple, qui ne soit pas compris par les bouddhistes, les hindouistes, les musulmans, parce qu'aucun d'entre eux n'aura participé à l'élaboration de ce texte,
vous aurez
la moitié de l'humanité qui sera à l'écart du mouvement en faveur de l'éthique. Mmh. Donc il faut que cette éthique, qui d'ailleurs... à mes yeux, n'est pas extraordinairement difficile à décliner hein, par rapport à tous les codes éthiques qu'on connaît déjà. Encore faut-il que cette déclinaison, encore une fois, soit faite par des gens qui représentent l'essentiel des 6 milliards d'individus,
de
culturellement,
la société,
idéologiquement.
Et donc, effectivement, que les codes déontologiques qui ont un certain intérêt, mais qui sont insuffisants, faits uniquement par les dirigeants ou les employeurs, ce n'est qu'une partie du problème.
Qui est les éclaireurs de pointe, c'est très bien.
De même que porter l'attention sur les rémunérations, c'est très important, mais c'est loin de représenter l'ensemble de la problématique, puisqu'il y a des problèmes de comportement, d'exemplarité, etc.
Bien entendu. Bon, un exemple qui, pour ma part, me préoccupe depuis toujours, depuis que je suis dans la vie des affaires. Bon, la rentabilité, c'est le moteur de la vie des entreprises, c'est ce qui leur permet de croître, de développer, c'est ce qui permet cette formidable création de richesse du libéralisme. Mais encore faut-il, encore une fois, que le libéralisme soit sauvegardé par des garde-fous. Et il faut qu'à côté de cette rentabilité, il y ait aussi le respect du personnel, le respect du client. Alors comment pondérer entre le respect du personnel, le respect de l'extérieur sur le plan du développement durable et le respect de cette règle inexorable et encore une fois qui, telle la main invisible d'Adam Smith, procure ses richesses, qui est la recherche de rentabilité, comment écorner cette recherche de rentabilité par d'autres critères, d'autres aspirations extraordinairement fortes qui existent depuis très longtemps mais qui se font sentir avec encore beaucoup plus de poids aujourd'hui. Là, c'est un vrai sujet sur lequel de nombreuses réflexions sont en cours. Moi, j'en ai démarré au sein du club des vigilants que vous évoquiez tout à l'heure et puis je sais qu'il y en, il en existe dans bien d'autres clubs.
Écoutez, ce qu'on aimera, c'est vous accueillir pour que vous veniez un peu plus développer ce dernier point, car en fait, effectivement, vous replacez la problématique avec l'homme au centre du problème. Et beaucoup de choses se jouent là, sur ce plan. Je voudrais simplement terminer en rappelant que nous avons d'écouter, de trouver un regard particulièrement réconfortant d'un grand patron dans tous les sens du terme, le président Bernard Heisenberg, sur la crise mondiale, qui, bien entendu, rebat complètement les cartes à l'échelon géopolitique mondial et qui donc annonce l'arrivée d'un nouveau monde qui, plus que jamais, sera à l'épreuve du tribunal de l'opinion et avec un désir de morale irréversible. Permettez-moi, cher président, avant de conclure cet entretien, de citer un de vos propos à l'attention des dirigeants sous forme de conseil. Pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain, vous disiez ceci: être possédé du doute nichtéen, celui qui fait bouger, qui empêche de croire dans les idées reçues. Vous maintenez?
Oui, tout à fait. Le doute est un formidable moteur, en tout cas en ce qui me concerne.
D'accord. Un doute, mais beaucoup d'optimisme. Président, merci une nouvelle fois pour cet entretien. C'était un grand moment. Merci à vous.
Merci à vous.